Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et heureuse de vous rejoindre. Alors, aujourd'hui, nous recevons donc Clément Mochet. Clément Mochet, vous êtes responsable à Eolimar. Donc voilà, rappelez-vous tous, si jamais je refais une erreur, que la société s'appelle Éol, comme le vent, comme le nom du dieu grec, le vent. Voilà, alors, une petite présentation d'abord de vous-même.
Bonjour Dominique, merci de m'accueillir. Alors rapidement, donc moi je suis Clément Mochet, j'ai un profil d'ingénieur généraliste. J'ai commencé ma carrière de manière assez atypique, puisque j'ai commencé par une expérience avec les Nations Unies sur l'île la plus inaccessible au monde, l'île de Tristan d'Acuna, qui se trouve en Atlantique Sud. Et donc j'ai été en charge pendant un an d'opérer des stations de mesure dans le but de détecter en fait des potentiels essais nucléaires. Donc j'ai évidemment pas forcément continué sur cette piste après. Par contre, de cette expérience d'un an...
Et elle appartenait à qui ?
C'est une île britannique. Et en fait, après cette expérience, donc j'ai eu pour le coup un vrai déclic pour l'océan et le large, on va dire. Et donc finalement, j'ai décidé d'entrer dans ce secteur par la voie... Donc il y avait toujours un rapport avec l'ingénierie, mais une voie qui finalement était focalisée sur les systèmes d'ancrage. Donc comment, en mer, au large, on peut venir maintenir des structures flottantes pendant plusieurs années. Donc ça, typiquement, c'est une problématique à la base, une problématique du secteur pétrolier et parapétrolier. Donc j'ai travaillé dans ce secteur pendant quelques années. Et puis au bout de quelques années, aux alentours des années 2010-2011, on a vu apparaître des OVNI, hein, vraiment des objets flottants non identifiés à l'époque. C'était les premières éoliennes flottantes.
Alors, on va donc présenter ces éoliennes flottantes. Vous les avez défendues au sein de cette nouvelle société, parce que Éolimar est assez récent, enfin, est une jeune société.
Oui, tout à fait. Alors, Éolimar, c'est un consortium, en fait, hein, une association de 3 entreprises. Une entreprise espagnole à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Bluefloat, une société japonaise, Sumitomo, et un acteur français,
Akyo. Alors, on va tout de suite écouter donc la présentation de ce consortium.
Éolimar, l'énergie de ma région. Éolimar, des origines méditerranéennes, un rayonnement international. Éolimar est un consortium pionnier formé par Bluefloat Energy, Sumitomo Corporation et Akuo, tous acteurs de l'énergie et aux expertises complémentaires. Éolimar propose le développement de 2 ambitieux projets d'éolien flottant en Méditerranée, dans le cadre du 6e appel d'offres éolien en mer lancé par l'État français. Ces 2 parcs seront situés à environ 20 km des côtes dans le golfe du Lion, ce qui permettra de limiter leurs impacts visuels depuis le littoral. Ils auront une capacité de 250 MW chacun, soit l'équivalent du besoin en énergie de 268 000 foyers français, et ainsi offrir aux régions côtières une autonomie énergétique respectueuse des territoires. En service en 2030 pour une durée de vie de 25 à 30 ans, ils seront ensuite démantelés et les pales seront recyclées à 90%.
Donc on vient d'entendre dans cette présentation que finalement nous allons faire d'abord un projet qui a répondu à 2 appels d'offres qu'on, en jargon, on appelle la 06, voilà, et que vous travaillez sur le plan méditerranéen, à la fois pour la France, mais pas seulement, aussi pour l'Italie, l'Espagne, je crois, aussi.
Oui, c'est correct. Alors, l'appel d'offres numéro 6, l'AO6, effectivement, c'est en fait 2 sous-projets. Hein. Donc, il y a un projet qui est situé ici, en Occitanie, au large de la Narbonnaise, à peu près 25 km des côtes. Et un autre qui est situé en partie sud PACA, à pareil une vingtaine, 25 kilomètres de Fos-sur-Mer. Donc deux projets de 250 mégawatts.
Et j'ai vu qu'ils pouvaient grandir et devenir,
effectivement,
et être extensibles.
C'est ça. Il y a déjà des extensions qui sont prévues par l'État, hein, en fait, hein, des extensions de 500 mégawatts chacun, donc qui portera la capacité totale de chacun de ces projets à 750 mégawatts par projet.
Bon, alors c'est la première fois qu'on parle de l'éolien flottant sur cette, dans cette émission, et je pense qu'on va avoir l'occasion, bien sûr, d'en reparler assez souvent, régulièrement même, j'espère en tout cas, dans la mesure où aujourd'hui, finalement, ça a été long, c'est un projet qui a duré quand même.
Oui, oui, bah un peu comme tous les projets de grandes infrastructures, et en particulier d'infrastructures énergétiques. Effectivement, c'est des projets au long cours, on peut dire. Sachant que l'éolien flottant est quand même relativement récent. Hein, c'est une technologie assez récente. C'est, si on regarde un petit peu à l'échelle mondiale, moins de 1% de toutes les capacités d'éolien en mer installées sont flottantes. C'est le petit dernier, si vous voulez, l'éolien flottant.
D'accord, mais on dit souvent aussi qu'on prend du retard parce que l'administration française est plus lente que certaines autres administrations.
C'est vrai, dans une certaine mesure, c'est vrai. Il faut savoir que l'éolien en mer, les cycles de développement, c'est de l'ordre aujourd'hui de 10 à 12 ans. Le président de la République, la semaine dernière, aux Assises de la mer, a annoncé une volonté de passer ces délais de 10 à 12 ans à 6 à 8 ans. Donc c'est un raccourcissement majeur.
Ouais.
Quasi moitié. Donc c'est ambitieux, mais effectivement, il faut qu'on y arrive parce que là, on prend énormément de retard. Je pense qu'il y a des marges d'amélioration. De là à atteindre ces objectifs, pour le coup, vraiment ambitieux, c'est une autre question. Mais on y viendra sans doute. On va s'en rapprocher, on l'espère.
Alors, vous êtes trois groupes à faire partie de ce consortium. Et pourquoi ces trois dimensions ? En fait, chacun, je suppose, a sa responsabilité.
C'est ça, on recherche vraiment une complémentarité hein, dans ce consortium. Et donc, je peux la détailler un petit peu sur ces trois piliers, c'est-à-dire que Blue Float Energy, donc, c'est le mandataire, donc c'est le responsable du consortium devant l'État, société à laquelle j'appartiens par ailleurs. Donc nous, on apporte donc, la gestion du projet et également une forte expertise technique sur tous les sujets particuliers de l'éolien flottant, parce que l'éolien flottant, encore une fois, c'est une technologie relativement nouvelle.
Donc c'est vers vous qu'on va si jamais une tempête.
C'est ça, s'il y a un problème, c'est vers chez nous que ça va se passer. Sumitomo, pour sa part, donc c'est plutôt la partie, on va dire, financière et gestion des risques, puisqu'ils sont déjà impliqués dans d'autres projets éoliens en mer, alors posés, ceci, en France, notamment sur la façade atlantique et la façade manche. Et enfin, Acuo, qui a vraiment un ADN de développeur d'énergie renouvelable et de créateur de projets énergétiques vertueux, apporte vraiment cette dimension
alors,
territoire.
Alors, on le connaît davantage sur le plan du solaire.
Tout à fait.
Acuo, moi, je l'ai rencontré beaucoup,
ouais,
par
sûr.
Exemple, dans les îles, la Réunion,
oui.
etc.
Sur l'agrivoltaïsme aussi,
sur l'agrivoltaïsme, ouais, enfin, effectivement, comme vous dites, c'est un pionnier parce qu'ils sont continuellement en train d'inventer quelque chose.
Tout à fait. Et du coup, l'éolien flottant, qui, comme je vous le disais, relativement novateur, correspond bien à cet ADN-là. Donc on a une association de trois entités qui ont vraiment une très bonne complémentarité.
Alors c'est la première fois qu'ils font ça ?
Cette association, vous voulez dire ?
Non, mais Acuo, c'est la première fois qu'ils se lancent
? C'est la première fois qu'ils se mouillent les pieds, oui, on peut dire. Même s'ils ont déjà des références sur le solaire flottant, mais là c'est plutôt sur des bassins ou sur des barrages. C'est la première fois qu'ils vont dans de l'eau salée, on va dire.
Alors, on est aujourd'hui, donc, vous dites, à 12 ans, finalement, de la première idée, enfin, mm-hmm. du premier projet, à peu près. Enfin,
à peu près.
Là où est née l'idée.
Ouais. Alors, on n'est pas à 12 ans, on sera à 12 ans en 2031, quand on mettra le projet en route.
Le projet ne verra le jour qu'en 2031, il va être...
Il injectera ses premiers électrons sur le réseau en 2031, oui.
Voilà. Et alors, mais on commence à construire à partir de quand ?
2028.
D'accord. Donc, pour l'instant, on amène les pales, on amène les mâts.
Ah non, on n'en est pas encore du tout là. Malheureusement, on en est beaucoup, beaucoup plus en amont que ça. Donc là, déjà, on est en train de répondre à cet appel d'offres de l'État. Hein. Donc, les lauréats seront connus, on va dire, à l'été prochain, été 2024. Et après, en fait, il y a plusieurs années Donc finalement, entre 2024 et 2028, on va passer plusieurs années sur tous les aspects environnementaux, hein, c'est-à-dire obtenir les autorisations nécessaires pour ce genre de construction. Beaucoup d'études techniques aussi.
Alors on va en reparler longuement.
Ouais, bien sûr, ouais. donc études techniques, et puis aussi l'obtention des financements pour ces projets qui sont des infrastructures lourdes, donc des financements lourds.
Mais alors, quelle est votre relation à la région? Parce que finalement, on entend Carole Dalga parler d'un projet éolien en mer depuis des années. Alors, il n'est pas flottant, c'est ça? C'est à cause de ça?
Si, si, il est flottant. Si, si.
Son projet est flottant.
Son projet est flottant.
Et on en parle depuis un long moment déjà.
Bien sûr, mais alors le fait est que l'Occitanie a toujours eu cette, ou toujours en tout cas depuis longtemps eu cette culture de première région, énergie positive, etc. Et je pense que ces projets-là s'inscrivent dans cette dimension-là en fait. Hein. La région Occitanie est vraiment motrice et a vraiment poussé pour avoir ce projet dans ses eaux.
D'accord. Alors aujourd'hui, on est en train de lancer, enfin élancé depuis le mois de septembre, vous me corrigerez si je fais une erreur, ce fameux débat public sur les façades maritimes et leur, enfin, la manière dont elles vont être finalement équipées énergétiquement.
Alors c'est depuis novembre, je crois.
Oui.
Donc c'est le fameux la mer en débat.
La mer en débat.
Et donc effectivement, il y a un volet énergétique, mais pas que. De manière plus globale, l'enjeu de ce débat, c'est de se projeter sur quels vont être les usages de la mer à l'horizon 2050. Et donc effectivement, le volet énergétique est un de ces volets.
Les autres?
Ça peut être par exemple les zones protégées. Ça peut être les utilisations de pêche, tout ce qui est collecte d'agrégats en mer, par exemple. Enfin, voilà, on ne se rend pas forcément compte, mais quand on commence à creuser, c'est particulièrement vrai en Méditerranée, on se rend compte qu'on est dans une matrice extrêmement contrainte en termes d'usage. La Méditerranée, c'est la mer qui est la plus pêchée au monde. La Méditerranée, c'est la mer qui se réchauffe le plus vite au monde. Donc il y a beaucoup d'usagers, beaucoup d'enjeux et donc une grande complexité. Donc à mon avis, avoir ce genre de débat prospectif à long terme est vital.
Alors, il est évident que vous ne travaillez plus en silo et que même si vous êtes en charge de l'énergie, tous ces autres aspects vous touchent.
C'est fondamental. Encore une fois, on est un petit peu, le dernier entrant dans une matrice qui est déjà quasi saturée, comme je vous le décrivais. Et en fait, donc, on a l'obligation et l'intérêt fort de trouver des compromis et des associations avec les autres parties prenantes.
Alors, vous avez rencontré, je suppose, comme tous les projets éoliens, malheureusement, des oppositions sur lesquelles vous êtes obligé aujourd'hui, de regarder, vous êtes obligé de faire face. Et j'ai vu que vous aviez une grosse préoccupation sur les questions environnementales en travaillant un peu sur votre dossier. Donc, vous êtes aujourd'hui face à quelles oppositions?
Alors effectivement, on peut commencer par le volet environnemental, parce que c'est assez pragmatique.
C'est celui dont on parle beaucoup.
Oui. On n'est pas là, finalement, pour... il ne faudrait pas qu'on arrive à une situation où on crée une transition énergétique au détriment d'une transition écologique. Surtout que ce sont les premiers projets, il y en a d'autres qui vont arriver, ça c'est assez clair par rapport à la stratégie énergie-climat qui est en train d'être déclinée.
Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez accepté.
Tout à fait, et il faut qu'on trouve aujourd'hui les bons leviers pour être accepté et la bonne place dans cette matrice, à l'échelle de la façade méditerranéenne française d'abord, mais et peut-être surtout à l'échelle méditerranéenne du bassin méditerranéen. Hein, donc on en parlait tout à l'heure très brièvement, l'Italie, l'Espagne, on a effectivement un portefeuille de projets qui est significatif. Et donc en fait, on est membre fondateur d'une association qui est en train de se monter, dont le but est justement de regrouper les différents acteurs de l'énergie de ces différents pays pour essayer d'avoir une vision d'ensemble sur cette programmation énergétique de l'éolien en mer en Méditerranée.
Alors vous évoquiez le fait que justement la Méditerranée était une mer fermée.
Oui.
Et particulière. Donc je suppose que prévoir avec plusieurs pays comme ça un développement énergétique oblige aussi à prévoir forcément une vision. Jusqu'à présent, la Méditerranée, c'était d'abord une vision.
Tout à fait.
Voilà.
Eh bien, c'est ce qu'on appelle vraiment de nos voeux avec cette coalition qui s'appelle le MedOcean. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et d'essayer de comprendre quel va être l'impact cumulé, finalement, de ces projets. Des projets français, mais des projets de l'autre côté de la frontière. On en a un, par exemple, au large du Cap de la Rosace, donc qui est vraiment très très proche de la frontière française. Donc il est géographiquement assez proche d'un des deux projets, donc celui au large de la Narbonnaise. Donc on a, à mon avis, le devoir de regarder comment ces projets vont cohabiter et quels pourraient être les effets cumulés qui vont générer.
Alors déjà, un effet cumulé au niveau de la vision du paysage. Mmh. Mais imaginons maintenant que les côtes sud aussi de la Méditerranée se lancent, et elles vont le faire, dans un équipement à équivalent finalement de nos côtes. On va avoir à ce moment-là sans doute à gérer des problèmes de pêche ou de transport.
Alors, pour revenir sur l'aspect visuel, donc ces parcs, hein, comme on l'a dit, ils sont à peu près à 25 km des côtes, donc c'est quand même nettement plus loin que ce qu'on ne peut observer pour l'instant en Atlantique, par exemple. On est plutôt à 12 km sur les premiers projets. Donc 25 km, on commence à s'éloigner de manière assez notable. Ça, c'est pour la première partie. Après, pour les pays du Sud...
Mais on les voit quand même, excusez-moi, on les verra quand même un peu.
Oui, on les verra, mais ça sera pas très impressionnant en termes de taille. Et il faut garder en tête aussi qu'on parle d'un nombre de machines assez réduite. Hein, c'est-à-dire que pour 250 MW, on va être sur une quinzaine de machines seulement. Oui.
C'est peu par rapport à des projets où on en a vu fleurir une centaine.
Voilà.
Bon, alors, je vous posais une question par rapport au transport et puis à la pêche.
Effectivement, et je pense que c'est l'enjeu de ce débat public qui s'ouvre, c'est de recenser finalement quels sont les usages et d'essayer de définir des zones dans lesquelles on va focaliser et prioriser un développement de l'éolien en mer. Il y a deux objectifs de ce débat. Le premier, c'est un objectif, on va dire, à moyen terme, c'est d'identifier sur l'ensemble des quatre façades hexagonales des zones pour pouvoir, à l'horizon 2035, avoir 10 gigawatts d'éolien en plus ce qui porterait la capacité totale disponible en France à 18 gigawatts. Ça, c'est l'horizon 2035.
Ça représente combien de centrales nucléaires ?
1 gigawatt, c'est un réacteur, à peu près.
D'accord. Donc 18 réacteurs ?
18 réacteurs à l'horizon 2035. C'est beaucoup. C'est très ambitieux parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les projets qui ont été attribués par le passé, donc là, on est sur de l'éolien posé à nouveau, on sait d'ores et déjà, de par la durée du cycle que je vous décrivais tout à l'heure de l'ordre de 10 ans, on sait déjà qu'en 2030, on n'aura en France que 3,5 gigawatts d'éolien en mer. Donc entre 2030 et 2035, il va falloir passer de 3,5 à 18.
Ah! C'est terrible. Et avec les conclusions de la COP d'aujourd'hui, donc multiplié par 3, c'est compris dedans ?
Pas encore, non.
Pas encore.
Non, pas du tout. Mais en fait, à un moment, on va aussi se heurter à une réalité industrielle. C'est-à-dire que passer de 3,5 à 18 en 5 ans, c'est très ambitieux. Alors, on peut avoir des ambitions encore plus fortes, mais si on sait déjà qu'on ne va pas réussir à les réaliser, il faut bien comprendre qu'on est sur des très gros objets. On n'a pas eu l'occasion d'en parler encore. Un flotteur sur lequel on va venir poser la turbine pendant sa durée de vie. Un flotteur, c'est un objet, alors il peut être en acier ou en béton, mais il fait quand même à peu près 80 mètres par 80 mètres de côté. Et il pèse quand même entre 4000 tonnes si c'est de l'acier et 20 000 tonnes si c'est du béton. Donc on est sur des objets énormes, donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas les sortir comme des petits pains, si je peux me permettre l'expression.
Très bien. Alors, ça, on va en reparler quand on va aborder la dimension financière. Mm-hmm. J'aimerais qu'on reste quand même un tout petit peu sur les problèmes d'opposition ou de discussion ou de débat. On a entendu les pêcheurs aussi parler de ces nouveaux objets flottants, non identifiés. Enfin, si pour vous, c'est très identifié.
De plus en plus identifié. Ouais.
C'est de plus en plus identifié. Et que cela représente en fait, ils vont jouer une espèce de rôle de ce qu'on appelait les DCP, enfin de concentration, de dispositifs de concentration de poissons. Et puis, ce que craignent aussi les pêcheurs, c'est que finalement, ils attirent des poissons venus d'ailleurs. Mmh. Alors, ce qu'on appelle les espèces exotiques. Bon, moi, je suis très réservée sur ce projet. On aura l'occasion d'en reparler. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce...
Alors, le premier point de discussion avec les pêcheurs, et je dois admettre que les pêcheurs, en particulier en Occitanie, sont tout à fait ouverts au dialogue. Donc ça, c'est déjà un point qui est intéressant. Le premier obstacle, entre guillemets, ou le premier point de discussion, c'est le fait que l'horaire de pêche va être réduite. Forcément, puisqu'en fait, on va avoir, comme je vous disais tout à l'heure, un nouvel acteur dans cette matrice, et donc une partie du parc ne sera plus accessible à l'ensemble des types de pêche, parce qu'on a des arts traînants et des arts dormants. Et en fait, on imagine bien que sous ces unités flottantes, en fait, il y a des câbles, il y a des systèmes d'ancrage, etc.
Donc une espèce d'air protégé obligatoire.
Quasiment, ouais. Alors, on pourrait envisager d'avoir des arts dormants. Et en fait, on en discute avec les pêcheurs à l'heure actuelle. Mais il y a certains types de pêche, type le chalut, typiquement, qui ne seront pas forcément compatibles avec ces zones-là. Donc, effectivement, potentiellement, la création d'effets réserves et d'effets récifs.
Bon, ils ne sont pas contre, a priori. Et ils commencent à s'y faire un peu.
Bah, on a au moins un
en
dialogue.
En tout cas, dans la région, on en parle.
Oui, bah dans la partie, effectivement, en région Occitanie, comme je vous disais, on a un dialogue qui est de qualité et qui est relativement pragmatique.
On a parlé ici des difficultés que la ville de Palavas avait eues pour mettre en place son aire marine. Il n'empêche qu'elle a réussi.
Tout à fait.
Voilà. Alors, il y en a d'autres. Alors, on a parlé du paysage, on a parlé de la pêche et des transports. Est-ce qu'il reste les oiseaux ? On a souvent, on voit la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui s'élève contre la mise en œuvre des parcs éoliens.
Oui, bah tout à fait. Alors, c'est un des aspects qu'il faut évidemment considérer. Et d'ailleurs, là, dans ces toutes premières phases de développement de ces projets, c'est l'État qui s'occupe de ce volet-là. L'État a lancé des campagnes de mesures qui s'appellent Migralion.
J'ai vu que vous étiez en lien quand même avec des ONG.
Oui, tout à fait. Dans le cadre de cette coalition MedOcean, en fait, on est en partenariat. Donc, on est Blue Float et un des membres fondateurs de cette alliance. Et donc, effectivement, on a embarqué dans cette grande coalition France Nature. Environnement et le WWF aussi. Le but du jeu là, c'est d'acter qu'il y a un besoin d'énergie décarbonée, d'acter le fait que l'éolien en mer est un contributeur et sera un contributeur majeur de cette énergie décarbonée à l'horizon 2050. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour concilier effectivement les usages et puis les impacts environnementaux, dont les oiseaux. Donc, pour y revenir rapidement, l'État a lancé des études qui s'appellent Migralion, un programme d'études. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, on est potentiellement sur des couloirs migratoires. Donc, il faut mieux comprendre où les oiseaux volent, à quelle altitude ils volent et à quel point on peut avoir des interactions entre les oiseaux et les turbines. Et une fois qu'on a dit ça, on peut envisager derrière des mesures pour éviter justement des phénomènes de collision. Des mesures...
Là encore, en Méditerranée, on a travaillé depuis longtemps sur ces sujets-là. Enfin, toute la Camargue, etc.
Bien sûr.
Sur les routes migratoires.
Hein. Mais ceci dit, on s'aperçoit qu'on a encore besoin de plus de données. Et donc, l'État réalise un travail remarquable à ce sujet-là. Et donc, juste pour clarifier, ce qui pourrait se passer, typiquement, c'est d'arrêter les machines lors de phases migratoires importantes.
Alors, on va malheureusement pas pouvoir aborder la totalité des points qui nous intéressent, mais c'est pas grave. On vous reviendrez. Alors, voilà. Donc aujourd'hui, on vient de quitter une COP 28 qui a été extrêmement décevante sur beaucoup beaucoup de points et vous avez une seule dimension finalement émerge un tout petit peu, c'est finalement les engagements financiers qui ont été faits. Ils sont inhabituels, ils montrent que subitement, on s'intéresse un peu à la chose, mais on connaît tous le gap qui existe entre l'engagement et l'action.
C'est certain. Alors après, il y a quand même des signes positifs, le fait que ce soit, vous faites référence à cet engagement de plus de 120 pays pour tripler la capacité d'énergie renouvelable déployée à l'horizon 2030. Ce qui est intéressant de voir, c'est qui est dans cette proposition-là. Hein. Le fait qu'on retrouve la Chine et les États-Unis, ça, c'est quand même plutôt encourageant et c'est plutôt nouveau. Donc, par rapport à effectivement les pays qui sont les plus gros pollueurs aujourd'hui.
Donc ça, c'est très important quand même.
Oui.
Voilà. Alors, en termes de financement, est-ce que vous croyez que la France va réussir finalement est-ce que vous voyez avec espoir l'émergence de votre filière éolienne?
Alors, clairement, on est très positif parce qu'en fait, c'est inscrit finalement dans la stratégie de l'État.
Hein, oui, mais il y en a plein de stratégies.
Non,
il y a une stratégie nucléaire, il y a une stratégie hydrogène.
Elles sont complémentaires en fait. Hein, ce qu'il faut bien comprendre dans cette stratégie énergie-climat, il y a trois vecteurs en fait. Le premier vecteur, c'est réduire la consommation énergétique. C'est fondamental. Et le deuxième vecteur, c'est faire monter en puissance les énergies renouvelables. Le troisième étant de stabiliser la production nucléaire en remplaçant les réacteurs à l'horizon. Mais voilà, là on est encore
sur des
cycles.
On ne fera que remplacer ceux qui existent.
Oui,
hein.
Mais en fait, ce qu'il faut bien qu'on entende, c'est qu'on a un besoin croissant d'énergie électrique. À l'horizon, entre maintenant et 2035, on va augmenter de 35% nos besoins d'énergie électrique parce qu'on transfère des usages.
Et vous croyez qu'on va pouvoir y répondre ?
On va tout faire pour, en tout cas. On va tout faire pour. Mais comme je vous le disais, effectivement, donc il y a l'éolien terrestre qui continue à contribuer. Il y a le solaire qui ajoute de la capacité, etc. Donc on fait tout ce qu'on peut pour y arriver. Mais effectivement, on se rend bien compte qu'on arrive face à un mur énergétique. Ça, c'est certain. En particulier, si on veut décarboner les usages qui aujourd'hui utilisent des fossiles. C'est ça, aujourd'hui, le vrai enjeu. Hein.
Donc vous croyez que financièrement, vous allez pouvoir y arriver ?
Clairement, en fait, c'est des projets. Si on regarde un peu les derniers appels d'offres qui ont été attribués, on tourne aux alentours de 44 euros du mégawattheure. 44 euros du mégawattheure pour de l'énergie éolienne en mer, c'est moins cher que du nucléaire.
Alors moi, je me souviens aussi, dans la région, on avait un des premiers grands ingénieurs, enfin un des premiers pionniers en termes d'éolien. Et puis finalement, la Compagnie du Vent a laissé tomber la totalité de ses enjeux parce qu'elle a eu du mal à se raccorder, parce qu'elle a perdu du temps, parce que
ouais,
ça pour des tas de raisons.
Elle était peut-être aussi, pour le coup, en avance de phase. Hein. C'est vraiment une société qui était pionnière. Et en fait, on voit que les premiers projets éoliens en mer, bah déjà, ils n'ont pas été réalisés en Méditerranée. Hein. Ils sont sortis sur Côte-Manche et Atlantique. Et puis, ils sont sortis, le premier parc effectif commercial en opération, c'est l'année dernière. Hein. C'est tout récent. On a pris beaucoup, beaucoup de retard. Aujourd'hui, en France, on a moins de 100 éoliennes en mer, là où au Royaume-Uni, vous en avez plus de 5000.
Oui. Et alors, ces difficultés justement de raccordement, enfin, est-ce que EDF aussi a modifié un petit peu sa manière de faire, sa manière de tout concentrer Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu plus d'autonomie régionale ?
C'est pas tant EDF, c'est plutôt RTE. C'est RTE qui réalise les connexions réseau. Et donc RTE, effectivement, est entré dans
savez,
une logique.
Il y a une époque RTE-EDF.
Oh, il y a toujours un lien, évidemment. Mais le fait est que nous, on parle plutôt de RTE. Et le fait est qu'ils ils sont dans cette démarche de standardiser et d'accélérer fortement les points de connexion mis à disposition. Parce qu'on est encore une fois sur des grosses puissances à raccorder.
Bien, bah écoutez, Clément, on va se quitter. Malheureusement, on n'aura pas abordé un point qui vous tenait fortement à cœur, qui était celui du recyclage de ces éoliennes. Donc, on aura l'occasion d'en reparler très certainement quand on reparlera des résultats d'Energaïa. Merci.
Avec grand plaisir. Merci, au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.